Bon, Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Je vais avec 2 ou 3 jours de retard. Je vais aujourd'hui parler de la seconde étape de ces slogans à la mode, c'est l'égalité. L'égalité est le grand mot à la mode. Chacun a droit à tout ce que son voisin possède ou peut posséder, ce qui est déjà assez délirant. Car ce sont le désir et la jalousie qui soufflent en tempête jusqu'au braquage et au meurtre. Pour plus de détails, lire votre quotidien habituel. En préliminaire, on peut constater la diversité des dons et en quelque sorte la spécificité. Mozart aurait-il eu l'habileté de Vatel en cuisine? Joseph l'ébéniste de Louis XV aurait-il été un habile ferronnier, etc. On peut prendre l'exemple de 4 saints. Il y a Saint Louis, il y a Saint Thomas d'Aquin, il y a Saint Roch, patron des clochards, et puis vous avez aussi Saint Vincent de Paul. Je ne sais pas si Saint Vincent de Paul aurait été un bon roi de France. Je ne sais pas si Saint Roch le clochard aurait été parfait au point de vue théologien. Probablement pas. Mais les quatre ont été des saints parce qu'ils ont quand même fait fleurir tout ce que le bon Dieu leur avait donné. Je me rappelle avoir dit à des jeunes gens, dans les saints, vous avez toutes les catégories possibles. Des faibles, des forts, des savants, des savants, des ignares, mais il n'y a qu'une seule catégorie capable, ce sont les nouilles. Mais à part ça, tout le monde est saint dans la mesure où il fait fleurir les dons que le bon Dieu lui a donnés. Et c'est pour ça qu'on peut se poser la première conséquence, en fait, pourquoi dévaluer un métier par rapport à d'autres, comme on le fait actuellement. On dévalue les métiers dits métiers manuels. Certes, les travaux de finition sont plus visibles et davantage prisés du public, mais que serait-il sans les travaux de fond? Prenons l'exemple d'une route. On aime bien que le revêtement soit impeccable, agréable, confortable, souple et tout. Mais on oublie que ce revêtement ne durera pas bien longtemps s'il n'y a en dessous des travaux de terrassement impeccables, avec où on prend l'eau, où on lui évite de rester, et s'il y a toutes les pierres de diverses tailles que l'on met sous le revêtement qui lui permettront de remplir pleinement son rôle. Autrement dit, il faut constater l'ensemble. La deuxième conséquence, c'est qu'il faut mettre à leur place les questions d'argent. Certes, ces questions d'argent ont d'importance, mais on peut constater que si l'on paie la bonne à tout faire au même prix que le directeur, il ne restera plus au directeur qui a épousé sa bonne. Essayons d'approfondir un peu la question. Vous avez la question de la gravité de l'erreur. La faute d'orthographe de la dactylo est quand même moins lourde de conséquences qu'une erreur stratégique du chef d'entreprise. Il y a aussi la question de la compétence. On peut faire un chauffeur en quelques mois, il faut 2 ou 3 ans pour faire un électricien, 7 à 8 ans pour faire un docteur, et même davantage si c'est un spécialiste. Enfin, il y a la qualité et l'expérience des intéressés. En réalité, la valeur ne va pas toujours d'ailleurs avec la rémunération. Le traitement d'un père abbé au rayon international n'a rien à voir avec celui d'un obscur trader. La véritable question de fond en ce qui concerne la rémunération est la question de justice. Il faut que chacun ait son juste prix, reçoive son juste salaire. L'ennui, c'est que il n'est pas possible d'exprimer ça en équation mathématique, d'où un tas d'erreurs d'évaluation. Mais ça n'enlève rien aux vérités de la chose. Il y a quand même des métiers qu'il est juste de rémunérer davantage. Après tout, l'architecte est là pour organiser, comme le chef d'orchestre vis-à-vis de l'architecte doit de dire à l'électricien où il met l'électricité, au mur, au toit, comment il faut faire le toit, etc., etc. Bien. Alors, la valeur humaine ne va pas toujours avec la rémunération. Oui, excusez-moi. Moyennant quoi, il est certain que nous avons tous une valeur certaine aux yeux de Dieu. Le Christ l'a dit, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Les cheveux de votre tête soient comptés. Et ce n'est pas pour autant que les riches sont, et les puissants intellectuels, ce qui vaut encore plus, sont méprisés, sont mis au-delà de tout. Le Christ a dit, je vous bénis Père de ce que vous avez caché ces choses aux sages et les avez découvertes aux petits. Donc, il ne faut absolument mépriser aucun métier, aucune action. Chacun a sa place. Proclamer l'égalité des citoyens, c'est supposer que chacun est né à 20 ans, sans parents, sans patrimoine, sans don particulier. Ce sont des sornettes purement idéologiques. Saint Paul dit à plusieurs reprises, nous sommes les membres du cœur du Christ, du corps du Christ, en lesquels nous sommes l'homme nouveau ressuscité dans le Christ. Rassemblant mes menues connaissances en grec, j'ai vérifié quand même que l'homme nouveau, c'est bien anthropos et non aner. Alors là, il faut faire attention aux mauvaises interprétations dues à des traductions imparfaites. En français, comme dans les langues latines modernes et en anglais, il n'y a qu'un mot pour traduire le latin homo et le latin vir. Cela n'existe pas en allemand, où l'homme en tant qu'humain se traduit par Mensch et l'homme en tant que masculin se traduit par man. En russe aussi, il y a deux termes. Dans plusieurs langues, il y a deux termes pour désigner l'être humain. Nous n'avons que l'adjectif. L'adjectif humain qualifie autant ce qui est masculin que ce qui est féminin. Donc, lorsqu'on parle de l'homme nouveau, c'est le terme anthropos, c'est-à-dire l'homme en général, aussi bien homme que femme. Et tous les humains sont égaux en tant que créatures de Dieu rachetées par le sang du Christ et appelées à une gloire que nous ne pouvons pas imaginer. Nous ne pouvons pas l'imaginer parce que nous n'en avons aucune expérience. Donc, moyennant quoi, chacun est membre d'un corps avec sa spécificité. Saint Paul disait déjà, si le pied disait « je ne suis pas la main, donc je ne suis pas du corps », cesserait-il d'être du corps. Ainsi en est-il des instruments de musique, la flûte, la harpe, s'ils ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtrais-je que j'ai joué sur la flûte ou sur l'harpe? Et si la trompette, ajoute Saint Paul, ne rend que des sonorités confuses, qui se préparera au combat? Donc, tout ceci est extrait de la première épître aux Corinthiens, qu'on ferait bien de relire sur ce point particulier. On peut constater que dans un domaine essentiel, à part ça, dans un domaine essentiel comme la santé, comme la force physique, c'est l'inégalité la plus flagrante qui est la règle. Certains peuvent manger de tout en abondance, c'est loin d'être le cas général, surtout lorsqu'on avance en âge. Cette question prend un aspect particulièrement sensible dans la question très actuelle de l'égalité de l'homme et de la femme. On ne répétera jamais assez qu'ils ne sont pas égaux, mais complémentaires, comme le papier et le crayon. L'un ne peut rien sans l'autre, mais il serait ridicule de parler de supériorité. Le père Philippe, fondateur des Petits Gris, aimait à dire que Ève, la petite dernière, était la préférée de Dieu. Il lui a donné la séduction, et surtout, lui a confié les deux choses les plus précieuses de sa création. Elle a été, j'allais dire, instituée, gardienne de la vie et gardienne de l'amour, laissant à l'homme la force physique et la charge de la sécurité de la femme. Il est évident que l'homme a la force physique. Nous n'aurions l'idée saugrenue d'organiser des matchs de boxe entre un homme et des championnats de boxe ou entre les hommes et les femmes. C'est complètement idiot. Même pour des sports qui ne sont pas uniquement physiques comme le tennis, chaque sexe a sa zone d'activité. Il y a les championnats masculins et les championnats féminins. D'ailleurs, les championnats masculins se disputent en 5-7, les championnats féminins en 3 seulement. Cette soif d'égalité de nos campagnes les incite à rivaliser dans le commandement et la... Cette soif d'égalité de nos compagnes les incite à rivaliser dans le commandement et la décision. Certes, elles n'en sont pas incapables. Il y a plusieurs exemples historiques. Il y a Sainte-Geneviève qui a pris les choses en main pour le siège de Paris, Sainte-Jeanne d'Arc, Aliénor d'Aquitaine, la Grande Catherine, que sais-je. Mais que sont devenus alors la vie et l'amour? On serait tenté de répondre qu'actuellement, avec l'arrivée des âmes en force dans tous les domaines d'activité masculin, à la place de la gardienne de la vie et la gardienne de l'amour, on a l'avortement, l'homosexualité, l'euthanasie et la pilule. Je ne sais pas si on a gagné tellement. Dans le domaine de l'éducation, l'égalité républicaine fait aussi ses ravages, car elle fait fi des dons de chacun en privilégiant de fait les connaissances qui sont censés vous faire appartenir à l'élite. Ce terme d'élite est un mot bien mal choisi, car il est des élites dans tous les champs de l'activité humaine. Pour réparer une voiture, je rêve de la confier à l'élite des mécaniciens, et j'aurai plus de considération quand j'ai des pannes chez moi pour l'élite des plombiers que pour les rédacteurs d'articles plus ou moins mensongers et bavards que l'on trouve un petit peu partout. Dernièrement, mon boulanger a enveloppé la baguette que je lui ai achetée dans un papier portant deux proverbes, dont celui-ci, Si tout le monde devient seigneur, qui fera tourner le moulin? Il faut que tout marche. Et j'ai une admiration particulière pour les humbles, qui assurent ponctuellement, dans l'ombre, des tâches apparemment modestes, comme par exemple d'assurer l'entretien des services publics, l'eau, le gaz, l'électricité, la collecte et le traitement des ordures, que sais-je. Ce sont des gens absolument essentiels. On n'a pas à dire, oh, mais ils sont beaucoup moins brillants que ceux qui rêvent de faire un pont par-dessus un large fleuve. Mais si vos ordures n'étaient pas récoltées tous les jours, ben on voit ce qu'il arrive à ce moment-là. S'il existe une réponse, il existe une hiérarchie des responsabilités, mais il est faux de penser d'en conclure qu'il existe une hiérarchie dans la dignité. Puis-je me permettre un souvenir personnel? Traitant de cette question devant des jeunes gens, j'expliquai un jour que chacun avait son rôle, comme les cellules du corps humain, prenant comme exemple les cellules du cerveau, qui ont un rôle certes plus noble que les cellules du bout du nez, mais qui sont tout autant nécessaires à l'équilibre de l'individu. Et fusa la question, et vous, dans quelle catégorie de cellules vous rangez-vous? Je me rappelle avoir répondu, excusez-moi de ce souvenir personnel, que, ayant pour domaine d'activité le traitement des ordures et des eaux usées, ma réponse ne faisait aucun doute. Je me suis permis d'ajouter, le plus grand génie du monde se voit bien diminué dans son travail s'il a une fistule à l'anus. Ces conséquences de l'égalitarisme dans l'organisme, qui se fait appeler éducation nationale, sont désastreuses, on ne le sait que trop. Quant à l'économie, on arrive à penser que la vraie égalité serait de payer ceux qui travaillent bien, comme ceux qui travaillent mal ou ceux qui ne travaillent pas du tout. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus voyait plus juste, elle nous disait, il faut fleurir là où Dieu vous a planté. Il faut pousser les plus belles fleurs là où Dieu vous a planté. Que ce soit sur le bord de la route, que ce soit au milieu d'un massif, qu'il y ait tout admiré par les touristes, ou simplement dans un pot de fleurs mis sur le balcon, il faut fleurir là où Dieu vous a planté. Et Dieu vous récompensera si on a bien fleuri. En allant au fond des choses, on peut constater que l'erreur fondamentale de cette égalité, on pourrait dire l'égalitarisme, vient de ce que la référence a été prise par des critères extérieurs, matériels, qui ne sont pas forcément négligeables, mais qui ne sont pas fondamentaux. Je veux parler de la gloire, de la considération, de la possession des biens matériels, toutes choses mondaines aux yeux de notre religion, et qui disparaîtront après la mort, qui seront traitées comme de la paille. Pour l'Évangile, c'est l'amour de Dieu pour les hommes et l'amour de chacun de nous que nous offrons en réponse. L'exemple le plus caractéristique est celui de Saint Gérard Majella, patron des valets de chambre, au service d'un évêque, paraît-il, particulièrement épouvantable, mais qui assurait son rôle avec fidélité, avec conscience et avec sourire. Ce n'est pas contre l'inégalité qu'il faut juste lutter, mais contre l'injustice. Ce n'est pas du tout la même chose. La vraie égalité consisterait plutôt à mettre en valeur les dons de chacun d'entre nous, à permettre de chacun de les mettre au service des autres. La République a dit à bas les privilèges. Les corporations de l'ancien régime étaient beaucoup plus sages. Elles prônaient à chacun ses privilèges. Les nobles ne payaient pas d'impôts, mais avaient la charge d'assurer la liberté, la sécurité et d'aller à la guerre à la place de ceux qui continuaient à cultiver les champs. L'égalité démocratique n'est qu'un faux semblant, un mensonge. Je ne ferai que mentionner la troisième des valeurs, la fraternité, qu'on continue à écrire sur nos manifestes, mais en écoutant ou en lisant les torrents d'injures, de calomnies, de mensonges, en voyant les procès que se font les hommes politiques entre eux, on pense que cette égalité, cette fraternité ne peut que vous faire hausser les épaules ou éclater de rire. Liberté, égalité, fraternité ne sont donc que de faux semblants de valeurs. Que mettre à la place? Les réponses sont multiples. En toute modestie, je vous en poserai trois dans mes prochains entretiens. Je proposerai le respect, le service et le dévouement. Bien, là-dessus, j'ai un peu bafouillé au début. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je vous souhaite une bonne entrée en carême et à bientôt.